Je vous propose la lecture de trois passages en introduction à notre réflexion. Nous reprenons partiellement Genèse chapitre 2 au verset 18 tout d'abord, puis les versets 22 et 23. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, isolé. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 22. L'Éternel Dieu façonna, organisa une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans le Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques, au chapitre 2, le verset 2 et le début du verset 3. Chapitre 2, verset 2 et le début du verset 3. Comme un lys au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, telle est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Et puis dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, donc vers la fin du Nouveau Testament, chapitre 3, les 7 premiers versets, 1 Pierre 3, 1 à 7, qui s'inscrit dans un ensemble, hein, vous le remarquez par la manière dont commence le passage qui fait allusion à des affirmations précédentes. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste ou pure et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez de même de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. souhaite-vous mutuellement bon accueil. Comme Adam a accueilli Ève, et le texte est très beau, nous l'avons relu dans Genèse 2, verset 22, mais je vais vous le lire maintenant dans une traduction qui défie toute concurrence, que j'apprécie par certains côtés et que je n'apprécie pas du tout par d'autres, vu que le traducteur d'une part est un universaliste qui n'a donc pas du tout une conception biblique du salut, et qu'en plus il est un révolutionnaire en matière de traduction, inventant des mots nouveaux, donc des néologismes à qui mieux chaque fois que cela est nécessaire, mais au point que le texte en devient parfois plus obscur qu'autre chose. Mais ceci dit, il y a ici et là, chez Chouraki, des pépites, des diamants. Et j'ai là, sous les yeux, un diamant dans sa traduction du verset 23, où il écrit, et c'est là son texte, là aussi ça commence de manière difficile, hein, puisqu'il il dit le glébeux, verset 23, l'homme, le glébeux, de la glèbe, la terre, l'humus, d'où vient l'humain, l'homme. Vous voyez qu'il y a, c'est manifestement de la même famille, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est le mot glébeux, mais le glébeux dit, l'homme tiré de la terre, dit, celle-ci, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié femme, Isha, oui, de l'homme, Ish, celle-ci est prise. Et où Chouraki a parfaitement raison, c'est dans son souci, dans sa traduction, de rendre un tout petit mot hébreu qui figure dans le texte original, de le rendre précisément en français les trois fois où il figure dans le texte hébreu. Celle-ci, vous l'avez remarqué, celle-ci, celle-ci. Et là aussi, très justement, Chouraki souligne que ce mot revient trois fois dans ce verset pour marquer la joie de l'homme à recevoir sa femme. Il l'accueille par ce triple salut comme une bénédiction. Et c'est vrai que dans la, je dirais pratiquement la stylistique de la langue hébraïque, de l'hébreu, la triple répétition est ce qu'on appelle un superlatif absolu. Quand on répète à trois reprises dans le même contexte la même expression, la même locution, cela sous-entend que on porte ce caractère, cette caractéristique, cette expression à son plus haut degré. Il n'est pas possible en hébreu de faire mieux. Et donc ça signifie beaucoup de choses, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de passages dans l'Ancien Testament où un terme dans le texte original revient à trois reprises, et alors on sait qu'il faut y attacher une importance toute particulière. Dans certains cas, on a rendu la triple expression du texte original dans le texte français quand ça ne l'alourdissait pas trop. C'est parfois dommage d'ailleurs d'avoir rendu seulement dans certains cas par deux, même une fois, là où figurait le 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, c'est le superlatif absolu de l'Ancien Testament et de la Bible tout entière d'ailleurs, pour évoquer la sainteté de Dieu. Seul qualificatif dans les Écritures se rapportant au caractère d'une personne, ici de Dieu lui-même, qui soit porté à ce superlatif absolu. C'est intéressant, il n'y a que le mot saint dans les Écritures, en rapport avec un caractère qui soit porté à ce niveau de superlatif absolu. Comme si Dieu voulait nous dire, regardez de très près ma sainteté, parce qu'elle a un caractère tout à fait particulier. Il y a beaucoup d'autres exemples dans les Écritures, dans le prophète Jérémie, enfin je ne veux pas m'arrêter ici, mais surtout dans ce texte, ce voici ou celle-ci qui est comme une exclamation superlative du bonheur d'Adam de pouvoir accueillir, recevoir sa femme, sa compagne auprès de lui. La beauté de l'accueil dans l'histoire du premier couple. Alors nous avons vu hier soir que pour pouvoir se faire dans nos relations de couple et au-delà, mutuellement bon accueil, nous devons réaliser combien l'accueil de Dieu en Jésus-Christ est extraordinaire en notre faveur. Et nous irons dans ce domaine de découverte en découverte. Et puis, secondement, réalisons l'accueil de Dieu en Jésus-Christ qui nous reçoit avec une immense générosité, mais à quel prix, hein ? Au prix du sacrifice suprême. C'est pas un accueil n'importe comment par une espèce de, j'allais dire, d'humanisme, comme si on pouvait parler d'humanisme en évoquant la personne de Dieu. Mais vous comprenez, hein ? Il y a l'accueil au nom d'une tolérance hyper généreuse. C'est pas ça. C'est parce que Dieu a payé le prix fort pour que nous soyons accueillis de cette manière. C'est un accueil qui coûte, un accueil qui est marqué par la souffrance, de la même manière que dans nos relations réciproques, tout véritable accueil a aussi, dans bien des domaines, signification de souffrance. C'est pas facile d'accueillir l'autre. Étant accueilli, le réalisant, nous pouvons apprendre à nous accueillir nous-mêmes, avec ce que nous sommes, mais en ayant fait le point avec le Seigneur en ce qui concerne le péché, de manière à ce que notre passé, notre éducation, tout ce qui a tissé notre vie jusqu'ici ne serve pas de bouc émissaire qui escamote dans nos vies la nécessité impérieuse d'une véritable repentance, là où Dieu met le doigt sur des fautes dont nous sommes pleinement responsables. Mais ceci dit, je suis appelé à m'accueillir aussi dans mon identité. J'ai une identité en Christ, et puis j'ai simplement une identité en tant qu'homme, de la même manière que mon épouse a une identité en tant que femme, et qu'il importe pour que nous puissions nous accueillir réciproquement que chacun d'entre nous soit au clair et sur son identité et sur l'identité de l'autre. Et c'est là que réside le gros problème aujourd'hui. Le grand drame actuel. L'homme masculin, aujourd'hui, est hélas tombé trop souvent, pardon de le dire ainsi, dans un comportement de femmelette. D'émission masculine de plus en plus impressionnante. Disons de l'autre côté que la femme aujourd'hui, et pardon de le dire ainsi, est très intéressée par un comportement d'hommelette. ce qui n'est pas mieux. Ce qui n'est pas mieux. Et ces deux affirmations sont symptomatiques du déclin. Et tout d'abord du déclin spirituel de notre société post-chrétienne. Et je le souligne parce que c'est aussi le symptôme du déclin spirituel d'Israël dans son histoire. Il est intéressant de constater que les prophètes s'élèvent dans l'Ancienne Alliance contre ce bouleversement dans les identités. Et ils montrent que ce bouleversement d'identité, cette perte d'identité de l'homme et de la femme, ce changement, cette violence faite à son identité pour la faire changer, n'est-ce pas, correspond à un désancrage par rapport à une relation juste avec Dieu. Je ne vais prendre qu'un ou deux exemples, dont le prophète Ésaïe, au chapitre 3, Ésaïe chapitre 3, et dans les premiers chapitres de son livre, Ésaïe dénonce avec une grande sévérité, lui qui est le héros d'une manière toute particulière, l'air de la sainteté de Dieu. Très fortement, c'est là une des grandes vocations d'Ésaïe, d'être le héros de la sainteté de Dieu, le Saint d'Israël. Et dans Ésaïe 3, dans ce réquisitoire implacable du prophète, nous avons au verset 12 cette remarque: mon peuple a pour oppresseur des enfants. Ça, c'est notre temps. Je suis frappé par la montée d'une génération, pardon de le dire, j'aime les enfants, mais d'enfants oppresseurs. D'enfants oppresseurs. La pierre n'est pas à leur jeter. Disons-le tout de suite. Ils sont devenus oppresseurs parce qu'ils sont en présence d'adultes qui ont perdu leur identité. Mais le fait est là, mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Je ne sais pas où nous irons dans la suite de notre étude concernant l'éducation des enfants, parce qu'on avance comme on peut. Hein. Mais il y a un lien entre les deux. Parce que c'est la femme qui, en particulier, joue le rôle d'influence le plus important sur l'avenir de l'enfant. Non que l'homme ne joue aucun rôle, ce n'est pas vrai. Mais le rôle d'influence est particulièrement prépondérant chez la femme, chez la mère. Nous y reviendrons si nous pouvons prendre ce temps-là. Regardez verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, peut-être à cause des mini-jupes, hein, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Et on voit des boucles partout maintenant, chez les hommes aussi d'ailleurs. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. Et je me demande à quel point c'est pas ce que nous voyons maintenant aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement de Dieu dans la découverte de la nudité féminine, lié à tout un contexte général? Moi, je suis frappé de voir l'actualité de ces vieux textes, un texte comme celui-ci qui date de la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Période de déclin. en Israël. Et ici et là, ces touches tellement précises sur la vie de la société israélienne dans cette période de déclin. Si nous allons dans Amos, chapitre 4, verset 1er, Amos, chapitre 4, verset 1er, prophète plus tardif, on est plus près du jugement terrible que représenteront les trois déportations successives de Juda à partir de la fin du 7e siècle jusqu'en 586 avant Jésus-Christ. Et Amos, donc au chapitre 4, commence son réquisitoire, en tout cas pour ce chapitre de notre découpage, hein, par ces mots: écoutez cette parole, génisse de Bazan, les femmes des grands d'Israël, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. C'est-à-dire qui se comporte exactement à contrario, n'est-ce pas, à l'envers, par rapport à leur véritable identité. Parce que, nous le verrons, selon les Écritures, et cela se vérifie dans l'histoire, une femme qui réellement vit sa vocation, son identité féminine, a au contraire à cœur de s'occuper des misérables, de s'occuper des indigents. Et elle ne sera pas la première à dire à son mari, allez, on va trinquer ensemble. Généralement, ce sont les hommes qui, dans ce domaine, donnent le feu vert. Nous pourrions prendre d'autres passages plus anciens. Si vous lisez mon premier livre, mon deuxième livre, Fidèle, quoi qu'il en coûte, consacré au début de l'histoire du prophète Élie, vous y verrez une description de la société du royaume du Nord, essentiellement, avec son roi Akab, qui manifestement avait démissionné de ses responsabilités d'homme, qui était dominé par une femme, virago, une femme homme, qui avait mis la culotte et qui prenait toutes les décisions à la place de son mari, parce que quand son mari avait des problèmes, la seule chose qu'il réussissait à faire, c'était de se coucher au lit, de tourner sa face vers le mur et de se mettre à sangloter, rempli d'amertume et de nouder, jusqu'à ce que sa femme vienne le secouer pour lui dire « Mais quel est ton problème ?» et de retrousser les manches pour trouver une solution absolument diabolique au problème que vivait son mari. Akab et Jézabel. À quelle période? Dans une société, dans cet Israël du Nord, qui était en pleine apostasie, en plein rejet de Dieu, ce qui suscita le ministère très courageux du prophète Élie. C'est une constante dans le message prophétique de l'Ancienne Alliance. Là où l'on s'éloigne de Dieu, il y a violation au niveau de l'identité et des comportements qui fleurissent et qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'ai lu une enquête dans laquelle il était indiqué que théoriquement, à 3 ans, un garçon est déjà conscient de la, j'ajoute, soi-disant, parce que le texte ne le dit pas ainsi, supériorité de son sexe. D'après des tests, 1% seulement des garçons déclarent avoir envie de changer de sexe, alors que chez les filles, on en trouve 15, 20, 25% même qui aimeraient être des garçons déjà à cet âge-là. Tout ça, ça change très très vite actuellement. Vous savez que on pratique de plus en plus d'interventions chirurgicales destinées au changement de sexe. On en fait maintenant par milliers, ça a démarré particulièrement aux États-Unis, ça se répand partout. Et un médecin a eu le courage de faire cette remarque. Cette demande croissante pour le changement de sexe est due à l'accélération de l'angoisse. L'opération devient la réponse immédiate à des problèmes existentiels. Il n'y a pas de plus en plus de transsexuels. Il y a de plus en plus de gens qui croient que ça va changer leur vie. Parce qu'ils sont mal dans leur peau, mal dans, au niveau de leur identité. Alors, soulignons tout d'abord ceci. Soyons au clair sur une chose. C'est qu'il est faux de parler de l'homme et de la femme en termes d'infériorité et de supériorité. Je dirais même jusqu'à un certain point qu'il est aussi faux d'en parler à longueur de journée en termes d'égalité, vu le sens, la signification que prend le mot égalité dans le contexte actuel. Dans les Écritures, c'est vrai. Hommes et femmes sont égaux dans leur nature. Pas l'un plus que l'autre sort de la cuisse de Jupiter. Hein. Et ils sont égaux en particulier devant Dieu en ce qui concerne le péché et en ce qui concerne le salut qui leur est offert en Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, et seulement dans ce sens-là, que l'apôtre Paul dira aussi bien dans Galates que dans Colossiens qu'il n'y a plus en Jésus-Christ ni homme ni femme. Mais n'abusons pas de ce texte comme le font hélas un certain nombre d'interprètes modernistes et pourtant évangéliques des Écritures qui donnent à cette affirmation un sens extensible à l'extrême en disant qu'à partir de là, bon, eh bien, il faut qu'il y ait accès tout à fait parallèle à toutes les fonctions dans l'Église de Jésus-Christ, à savoir que la femme peut devenir ancienne au même titre que l'homme peut être ancien, qu'elle peut devenir pasteur, pour utiliser le terme obligé maintenant, au même titre que le mari est pasteur, etc., etc., n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que les Écritures disent. Nous sommes égaux devant Dieu au niveau de notre péché, de notre culpabilité, de notre besoin absolu de salut, et l'accès au salut est le même, quelle que soit notre identité. Jésus-Christ sauve pareillement hommes et femmes. Et il n'y a pas, malgré un texte qui pourrait le laisser croire, mais je le dis en pensant à certains excès de mouvements évangéliques qui sont à la lisière de la secte, si elles n'ont pas glissé dedans, il n'y a pas de salut par la maternité, par exemple. C'est une interprétation un peu forcée d'un texte biblique qui fait qu'effectivement, dans certains milieux, dans un milieu particulier, dit évangélique, les épouses et les familles comptent de nombreux enfants, puisque le salut serait accessible par la maternité. Vous voyez comment on peut, hélas, interpréter des textes délicats, difficiles, sur lesquels les théologiens se penchent depuis des siècles, à pas feutrer de la manière la plus délicate qui soit, mais qui ne peuvent pas signifier quelque chose qui est en contradiction avec le message essentiel qui parcourt toutes les Écritures. Il n'y a pas de salut par la maternité. Le seul salut par la maternité, c'est dans le fait qu'un jour, le Fils de Dieu s'est incarné. Et il y a eu une maternité qui a permis, mais simplement en tant que vase, en tant que moyen extrêmement fragile, qui a permis l'incarnation et qui a abouti au salut par la croix. C'est cette expérience unique dans l'histoire de Marie qui, reconnaissant sa fragilité, son besoin de salut, a accepté de porter en elle, de manière miraculeuse et extraordinaire, par un miracle du Saint-Esprit, le Fils de Dieu, devenant Emmanuel, Dieu avec nous, et sauveur des hommes et principalement des croyants. Donc il ne faut pas parler de l'homme et de la femme d'abord en termes d'infériorité et de supériorité, c'est faux, d'égalité, sauf si on le conçoit dans les termes que nous venons de voir, mais il importe que nous en parlions en termes de différence, d'une part, ça va de soi, et de complémentarité, et c'est beau, et puis de responsabilité, qui va très bien avec les deux mots précédents. Différence, complémentarité, responsabilité. Il y a de telles différences entre homme et femme que toute une vie ne suffit pas pour que je comprenne totalement mon conjoint. Et vice-versa. Nous sommes chacun pour l'autre un puits de découverte tout au long de notre existence. Tant il y a de différences et de richesses partagées. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons lu Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ce qui a fait gloser certains interprètes qui n'ont pas tenu compte simplement de ce que signifie très exactement cette expression. Littéralement, je lui ferai une aide comme son vis-à-vis. On peut traduire cela différemment, selon d'ailleurs certaines versions qui le font très bien, une aide qui lui soit assortie. Ou encore, une aide qui lui soit accordée, mais accordée dans le sens musical, hein, symphonique en quelque sorte, terme qu'on trouve dans les Écritures. Une aide qui lui corresponde. Quelqu'un qui... Et c'est le sens du texte original, quelqu'un qui soit son vis-à-vis dans ce sens, quelqu'un qui le regarde dans les yeux. Quelqu'un qui est en réalité du même niveau que lui. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, mieux vaut qu'il n'y ait pas 50 cm entre les deux. Mieux vaut alors prendre un escabeau. Hein. Quelqu'un qui le regarde dans les yeux. Je lui ferai une aide, alors on verra ce mot aide plus tard parce qu'il est aussi très noble et très beau, mais il y a cette insistance de vis-à-vis, de face-à-face, de correspondance, de manière d'être assortis l'un à l'autre, de se compléter l'un l'autre. Alors tout ceci est révolutionnaire. Quand cela est dit dans le contexte actuel de notre société. Et il est vrai que je me ferais peut-être lyncher si j'osais dire ces choses dans certains cadres. Et pourtant, un homme de Dieu a écrit ceci, qu'on ne dise pas non plus en se réclamant de l'écriture que Ève a été créée semblable à Adam. Hein, nous venons de voir le texte. Semblable ne signifie pas identique. L'égalité et l'interchangeabilité sont deux notions distinctes. Le fait qu'on puisse remplacer l'un par l'autre, hein, comme si les deux étaient totalement équivalents dans leur fonction. L'interchangeabilité sont deux notions distinctes qui n'ont pas de lien logique entre elles. Deux bâtons de même longueur sont-ils inégaux parce que l'un est en chaîne et l'autre en être ? L'égalité n'implique pas l'absence ou la suppression des différences. Vouloir rayer ou ignorer ces différences, c'est aller contre la nature des choses et céder à l'idéologie. Il y a des différences biochimiques, anatomiques, émotionnelles, nous allons le voir, affectives, évidentes, entre l'homme et la femme, et on sait très bien que chaque cellule du corps de l'homme est différente de celle du corps de la femme, la structure chromosomique est différente entre homme et femme. Alors venons-en, à partir de là, à la structure du couple et aux différences de vocation pour nous permettre de situer nos identités respectives. Nous n'allons pas fouiller une multitude de textes qui, dans les Écritures, donnent des indices pour appuyer, pour corroborer, pour souligner ce que je vais partager avec vous. Il n'y a pas de texte précis qui, dans les Écritures, consacre des versets, voire des chapitres entiers à dire, voilà, portrait de l'homme, portrait de la femme. Nous devons, par notre lecture permanente des Écritures, chercher au fil des Écritures les indices qui, mis ensemble, vont nous donner ce portrait. Si nous réussissons à trouver du temps pour l'éducation des enfants, notre première surprise sera de constater que l'enseignement direct des Écritures sur l'éducation des enfants est extrêmement réduit. Il y a très peu de passages, et les statistiques des passages, je ne vous les donne pas maintenant, pour ne pas brûler les étapes, mais il y a très très peu de passages. Et si l'on devait simplement s'appuyer sur les quelques passages néo-testamentaires, et le peu de passages de l'Ancien Testament, pour construire l'enseignement sur l'éducation des enfants, nous serions pauvres. Mais il y a tout au long des Écritures une quantité d'indices merveilleusement harmonieux avec une unité extraordinaire qui nous donne des indications. Je donne un exemple. La relation de Dieu en tant que Père avec Israël, appelé dans les Écritures son fils premier-né, nous donne une quantité d'indications extrêmement précieuses dans le livre du Deutéronome, mais dans d'autres passages aussi, pour nous indiquer le rôle du Père, la pédagogie juste d'un vrai Père et ce que le Père attend de son enfant. Et nous pourrions ainsi continuer. Donc ne vous étonnez pas si dans la suite de notre exposé, nous n'allons pas en permanence chercher ici et là des indices. Je vous en citerai, nous en avons d'ailleurs déjà cité quelques-uns au passage, même dans le texte d'Ésaïe. Et puis c'est là que nous pouvons rendre hommage à des hommes et des femmes qui humblement se sont contentés, mais avec beaucoup de conscience professionnelle et de sérieux, ils se sont contentés d'observer et de tirer un certain nombre de conclusions, de portraits d'identité à partir de leurs observations. Le problème ensuite, c'est au niveau de l'interprétation et des solutions qu'ils donnent. Mais souvent, les observations faites, quand elles sont honnêtes, intègres, rejoignent les Écritures. Où ça se corse, c'est dans la manière d'interpréter, de décrypter, et ensuite d'apporter à l'homme des solutions. Là, il faut se tenir très solidement sur le terrain biblique. J'ajoute enfin, toujours par précaution, en préparant le terrain, il faut déminer D'abord, le sujet est délicat. J'ajoute aussi ceci, c'est que nous allons être tentés, ici et là, de dire, mais ce que notre frère dit ne correspond pas forcément à la réalité telle que je la perçois. Et ils n'auront pas totalement tort. Dans ce sens que ce que nous allons présenter en ce qui concerne la structure du couple, l'identité de l'homme et de la femme, les différences de vocation, hélas, tout cela est dans le brouillard aujourd'hui. On ne voit plus généralement le schéma biblique selon la pensée de Dieu. Et ça, c'est toujours le drame de toute société qui devient, en tout cas post-chrétienne, ou qui refuse Dieu. C'est que plus elle s'éloigne de Dieu, plus elle entre dans des brumes et dans toutes sortes de confusions qui fait que, effectivement, les identités se brouillent. Et que pour l'enfant de Dieu même, ça devient difficile s'il ne se tient pas très près de la parole. Il est tenté d'accepter ce bruit à midi, n'est-ce pas, qu'il voit autour de lui comme quelque chose de normal. Et ça, c'est le problème de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, où, hélas, on est tenté, parce qu'on ne se tient pas assez près des Écritures, d'accepter ces changements, parfois très insidieux, qui s'opèrent dans notre société, en disant qu'après tout, c'est normal, le temps le veut ainsi, mais ce n'est pas aussi problématique que cela, non. Non, nous allons essayer de voir avec netteté la manière dont Dieu voit les choses, et je le dis avec beaucoup de prudence, parce que je ne suis qu'un homme, et que je suis en cours d'apprentissage. Une dernière remarque encore. Même si nous devons présenter les choses dans un ordre logique, passant de l'homme à la femme, puis de la femme à l'homme, nous devons nous souvenir d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de cloisonnement étanche en ce qui concerne cette identité. Je veux dire par là que il y a chez tout homme une dimension féminine. Et il y a chez toute femme une dimension masculine. Le problème, c'est quand chez l'homme la dimension féminine occupe une place de plus en plus prépondérante au point d'évacuer ou même de complètement caricaturer l'aspect féminin, et vice-versa, n'est-ce pas? Donc, là aussi, hein, ne mettons pas des barrières, ça c'est notre problème d'occidentaux qui aimons découper toutes les choses en tranches, là où d'ailleurs l'oriental est généralement beaucoup plus nuancé, et c'est le cas pour une quantité d'autres thèmes dans les Écritures. D'ailleurs, regardez l'apôtre Paul. Il y a chez l'apôtre Paul, qui était pourtant ex-pharisien, nec plus ultra des pharisiens, champion du monde en matière de pharisaïsme, homme d'une rigidité absolument incroyable, implacable, raisonneur, comme pouvait l'être un rabbin pharisien, n'est-ce pas? Et il y a chez lui des envolées féminines extraordinaires. Au début de la première aux Thessaloniciens et dans d'autres textes où il parle de, il a voulu être pour ses croyants comme une mère, etc. N'est-ce pas? Il y a toute une dimension féminine, mais elle n'est pas la dominante du caractère de l'apôtre Paul. Hein. Je pense que si vous connaissez les Écritures, on est au clair là-dessus. Vocation de l'homme. Vocation de l'homme. Bien, c'est un raisonneur. L'homme raisonne. Ça ne veut pas dire que la femme ne raisonne pas. Mais c'est l'excellence d'un homme de raisonner. L'homme est un brasseur d'idées. Doué généralement, et le problème d'ailleurs est là aujourd'hui, doué normalement d'un esprit de décision. Son esprit est essentiellement théorique. L'homme aime
faire des théories abstraites sans relation directe avec la réalité immédiate. C'est généralement d'ailleurs ce qui agace les dames et les demoiselles lorsqu'elles ont le privilège de participer à des travaux de comité. De temps en temps, ce sont les dames qui disent aux messieurs, « Messieurs, revenons à la réalité. Vous êtes trop haut. Je le sais, pour travailler très longuement dans le comité national de la Fédération évangélique de France depuis 20 ans maintenant. Et nous sommes reconnaissants d'y avoir des dames, deux dames et une demoiselle, qui ont apporté un élément d'équilibre très important pour nous aider à redescendre sur terre au contact des réalités immédiates. L'homme comprend donc par la raison, même si parfois il y a passion, mais c'est d'abord la raison. Il aime entreprendre, il aime gouverner, il aime conquérir, au point que quelqu'un écrit ceci, une civilisation construite par l'homme seul demeure abstraite, froide, technique, inhumaine. L'homme est donc fait pour être la tête, le cerveau. Non pas que la femme n'ait pas de cervelle. Comprenons-nous. D'ailleurs, si l'homme est la tête, vous savez que la femme est le cou qui fait tourner la tête. L'homme a la charge d'être une sorte de colonne vertébrale, non que la femme n'ait pas de colonne vertébrale, mais elle a besoin, nous le verrons, de l'appui de la colonne vertébrale masculine. Même si elle doit avoir une colonne vertébrale, nous le verrons en tant que directrice de son foyer. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pourtant, c'est dans la Bible. L'homme est une colonne sur laquelle la femme doit pouvoir s'appuyer. Il aime être protecteur. Il aime la virilité, ça va de soi. Hein. C'est presque une tautologie, une répétition, étant donné le sens du mot « vir ». Et bien entendu, il est calculateur. Ça, c'est l'homme. Nous allons revenir à lui. Mais quelques mots au sujet de la vocation de la femme. Nous l'avons sous-entendu tout à l'heure. Même s'il y a des éléments masculins que nous avons évoqués chez elle, la dominante chez elle, c'est un esprit plus personnel. C'est-à-dire beaucoup plus attaché à la personne qu'aux idées, qu'aux théories. Plus attaché aux détails pratiques. Les généralités intéressent relativement peu la femme, les idées générales. Dans la vocation féminine, il y a un pouvoir de sympathie, c'est-à-dire littéralement de compassion, même terme, de souffrance avec, d'identification à la souffrance d'autrui, de sensibilité, don de tendresse. Parce qu'elle vit avec son cœur. Et là, je n'utilise pas le terme cœur dans sa signification biblique, puisque le cœur dans les Écritures, presque 1000 fois dans le vocabulaire biblique, le cœur est l'épicentre de la personne, le quartier général de l'individu, l'ordinateur là où se prennent les décisions, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, etc. Il y a tant de textes qui montrent l'importance fondamentale du cœur. Donne-moi ton cœur, je changerai votre cœur. Mais je l'utilise dans un sens que nous connaissons. Hein. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Elle vit avec son cœur, elle comprend avec le cœur. On dirait aujourd'hui, pardon, hein, nous en tout cas en France, elle vit avec ses tripes. On se comprend, hein. Ne dites pas que je suis impoli, je viens de prendre des précautions. Elle est très intuitive, au point de déboussoler l'homme, en particulier son mari, qui est jaloux de ses capacités d'intuition, tout en les craignant parce que l'intuition joue aussi de mauvais tours à la femme. Quand elle l'érige en point de repère quasi infaillible. Tant qu'elle relativise son intuition peut être un service remarquable. Dès qu'elle donne à son intuition une place prépondérante qui n'est pas dans le plan de Dieu, elle se casse la figure, avec tout ce que cela signifie. Mais elle est intuitive, en particulier parce que faite, créée, pour une vocation maternelle. Elle ne va pas forcément, obligatoirement, la réaliser dans sa vie. Elle ne va pas être une demi-femme, ou un quart de femme, ou un dixième de femme pour autant. Parce que de toute manière, son intuition liée à sa vocation maternelle va lui être d'une immense utilité dans toutes sortes de services qui sont liés à sa féminité. D'ailleurs, c'est extraordinaire de voir cette antenne ou ces antennes qui existent entre la femme et le petit bébé. Hein. C'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que chez le petit bébé, alors qu'une quantité d'autres moyens de perception, de transmission de signaux, d'explication de demandes ne fonctionnent pas encore de la bonne manière, le langage, etc., Dieu a permis que dans la toute petite enfance, l'intuition soit un domaine très fort chez le bébé aussi. Alors, il faut bien qu'on se comprenne à quelque part. Hein. Et c'est là que l'onde passe entre maman et bébé. Pendant que papa regarde son épouse en disant « Comment tu fais ?» Hein. C'est extraordinaire. Et un jour, papa prendra un certain relais dans certains domaines, au moment où d'autres facultés de perception, d'envoi, de signaux, d'information, de communication seront mises en œuvre. Voilà quelques mots pour souligner enfin que la femme est l'âme, le cœur du foyer. Je dirais, et ça colle bien, en particulier dans les montagnes suisses, le feu qui brûle dans l'âtre, le feu qui brûle dans la cheminée. Et combien cela fait du bien quand on entre dans une pièce, peut-être transi de froid, ou ayant été fouetté par le vent, la bise, et qu'on peut aller vers la cheminée, vers le feu, se réchauffer. Et vous savez qu'il existe des chaleurs chaudes et des chaleurs froides. Quand vous entrez dans une maison du tout électrique, c'était le cas lorsque nous sommes installés dans la maison que nous occupons pour maintenant depuis bientôt 18 ans, c'était le tout électrique. C'était une chaleur froide. Alors nous avons décidé qu'il fallait de la chaleur chaude. Alors nous avons fait installer une bonne cheminée qui chauffe toute une partie de la maison. Et quelle différence, hein ? Alors je dirais que par certains côtés, l'homme est un peu la chaleur froide, hein, c'est le tout électrique. La femme est la chaleur chaude, qui répand aussi une lumière, qui donne une atmosphère. Hein. Vous voyez la différence, hein ? Quand vous regardez, hein, si je regarde le chauffage, j'y suis bon. Ça va, quoi, on est content de l'avoir, mais au point de vue esthétique, avec les lambris et tout le reste, c'est pas ce qui va illuminer notre vie, hein, on est content de l'avoir. Mais quand vous allez dans une pièce où il y a ce rayonnement de lumière depuis l'âtre, combien c'est beau. Combien cette chaleur-là attire, hein, au point que parfois on brûle ses ailes à sa lumière et à son feu. Quelqu'un dit que pour l'homme, la vie est une ligne droite. Pour la femme, la vie est un cercle. Ligne droite. La vie est un cercle. Le hula hoop. Hein? Qui donne aussi l'idée du besoin d'être entouré, comme du besoin de protéger aussi les enfants, n'est-ce pas ? L'homme, pourrions-nous dire, est l'architecte. Qui a besoin de la femme ? Parce qu'hélas, les hommes architectes font pas mal de gaffes. J'ai fait une partie... Tant pis, hein, s'il y en a ici, hein, tant pis, hein. Tant pis, j'espère que s'il y a un architecte parmi nous, il prend les conseils des dames. Parce que j'ai des souvenirs. J'ai eu le privilège d'étudier à l'Institut biblique Emmaüs, tout d'abord à Vennes-sur-Lausanne, à côté de la Ligue pour la lecture de la Bible, pendant 2 ans, et puis ma troisième année dans le nouvel institut, au-dessus de Vevey. Et j'ai vécu les tourments de la construction du nouvel Emmaüs. Et les problèmes rencontrés précisément au niveau pratique. La bataille à mener pour le côté pratique, fonctionnel de cet institut. Et combien de fois avons-nous entendu René Pache, qui est auprès du Seigneur et qui a peut-être laissé quelques années de sa vie. Et l'intendant de l'époque, qui est auprès du Seigneur aussi, Emmanuel Bloch, un très cher ami. Combien de fois ont-ils dit, mais si seulement il avait une femme à côté de lui. Pour lui montrer comment on installe les choses, parce que quand on vit dans une cuisine, on sait comment on ouvre les placards, etc., n'est-ce pas ? Mais ceci dit, l'homme... Et l'architecte, la femme, la décoratrice. Et combien c'est beau. Combien c'est beau, un bouquet. Et je pense en disant cela à toutes les églises visitées les unes après les autres depuis 18 ans, où parfois j'ai été bouleversé par ce qui est généralement une activité très féminine. Quelle capacité, quelle beauté dans les bouquets. Quel art. Combien cela fait du bien. Bien sûr, il ne faut pas se tromper parce que maintenant, je suis obligé de regarder si les fleurs sont artificielles ou non avant de me prononcer parce qu'il y a de telles ressemblances. L'homme est le pilote. La femme, l'hôtesse de l'air. Et c'est vrai que je n'ai rien contre les stewards, donc masculins. Mais je dois dire, je vous ouvre mon cœur, que je préfère les hôtesses de l'air. Parce qu'elles ont le chic de mettre à l'aise. Elles ont le chic de deviner le problème de maman avec son petit bébé, qu'elle ne sait pas très bien comment caser, ou qui se met à brailler. Et alors qu'on est si près les uns des autres, c'est quand même un peu problématique pendant des heures. L'hôtesse de l'air. L'homme gouverne le bateau, la femme prend soin des passagers. Pour l'homme, avis aux mathématiciens, 2 plus 2 égale 4. Chérie, 2 plus 2, ça fait 4 et ça a toujours fait 4 et ça fera toujours 4. Non, chérie, c'est la femme qui répond. Tu as tort. C'est peut-être comme ça sur le papier, dans l'abstrait, mais pas dans la réalité, surtout pas dans cette situation dont on parle en ce moment. 2 plus 2, mon chéri, ça fait 3,9 ou 4,1. Tout est toujours plus nuancé à quelque part. Par la parole, l'homme exprime des idées, des informations, nous l'avons vu. Par la parole, la femme exprime des sentiments, des émotions. Je ne veux pas dire qu'elle n'exprime pas d'informations, mais même quand elle donne des informations, elle s'est enrobée cela dans un climat de sentimentalité tout à fait particulier. D'ailleurs, et là, ça devient très intéressant pratiquement, parce qu'il y a des prolongations pratiques hein, dans nos relations les uns avec les autres à tout cela. Et d'ailleurs, la femme parle souvent pour se décharger d'émotions provoquées par les événements. Pendant, combien ? Presque 9 ans de vie conjugale, j'étais le seul homme dans notre foyer composé de mon épouse et de 3 filles. J'ai dû apprendre. Je savais déjà un peu, mais c'était de la théorie. Mais j'ai dû apprendre quand ou l'épouse ou telle de nos filles éprouvait le besoin de dire à papa 10 fois la même histoire, hein. Mais chérie, mais tu me l'as déjà raconté. Oui, mais enfin, tu comprends. J'ai besoin. Elle a besoin de se décharger. Ah, quand je rentre de voyage. Je pense que samedi prochain, il faudra que je me prépare. Parce que Tina, elle aura un tas de choses à me dire, d'autant plus qu'elle aura été assez seule pendant ces jours. Alors il faut que je me dise, il faudra que j'écoute. Elle doit être en train de se dire, quand Maurice rentrera, il faut que j'essaye quand même de ne pas trop lui en dire d'un coup. Ben, c'est ça le mariage. Hein. Chacun va vers l'autre. Connaissant l'identité de l'autre, il va faire un bout de chemin pour aider. Moi, je sais que je devrais passer outre la fatigue et accepter les premières informations, sans dire la barbe, j'ai besoin de repos, j'ai vu du monde, j'en ai entendu du matin au soir, maintenant j'ai besoin d'être tranquille. Je ne peux pas faire ça. Mais en même temps, je m'attends à ce que mon épouse réalise mes limitations. Et si chacun d'entre nous, samedi soir, nous faisons un bout de chemin l'un vers l'autre, dans le respect de nos identités, alors ça ira, entre nous. Et ça va déboucher sur une belle journée de dimanche prochain. Je vois que le temps passe. J'aimerais peut-être simplement ajouter ceci, c'est que l'homme a le sens, nous l'avons dit en fait, l'homme serait comparable, comme le disait un de mes professeurs, à une commode à tiroirs. Messieurs, Si vous pensiez être des armoires à glace, j'ai l'honneur, le privilège et la grande responsabilité de vous dire, détrompez-vous. Nous sommes des commodes à tiroirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes compartimentés. Cela veut dire que nous avons beaucoup de peine à faire et à penser plusieurs choses en même temps. Et c'est important parce que cela engendre un tas de problèmes. Cela engendre un tas de problèmes lorsque l'épouse dit à son mari, « Chérie, tu peux m'attacher ce tableau au mur et planter un clou ?»« Attends, quand est-ce que tu veux cela ?»« Aujourd'hui. » »« Non, chérie, faut que je m'organise. » Il faut planifier. Au grand désespoir de l'épouse qui va finir un mois plus tard par le faire elle-même, n'est-ce pas? Quand je suis dans mon bureau en train de travailler au premier étage et que mon épouse appelle pour le repas, c'est difficile de lâcher une chose pour aller vers une autre. Et je suis toujours abasourdi, ébahi, émerveillé de voir ces épouses qui ont un bébé dans un bras, le téléphone dans l'autre, qui surveillent la cuisson tout en jetant des coups d'œil par la fenêtre pour regarder ce que fait l'aîné dans la rue. Un homme qui est cuisinier ou chef cuisinier, généralement a besoin d'une multitude d'aides. La femme, elle a 4 feux allumés. Moi, je ne sais pas comment elle fait. J'aime de temps en temps faire un peu de cuisine, c'est peut-être un côté féminin, j'en sais rien. J'aime. Mais je dois dire que quand les 4 feux sont allumés, j'ai envie de m'enfuir. Une chose après l'autre. Ce qui me pose généralement des problèmes au moment où je prends le repas, parce que les choses ne sont jamais chaudes ensemble, n'est-ce pas? Et oui, parce que la femme, c'est elle l'armoire à glace. La femme est une armoire à 2 battants. Elle n'est pas compartimentée comme l'homme. Elle travaille, elle pense dans bien des domaines à la fois. Elle n'aime pas son mari comme son mari l'aime. L'homme va ouvrir un tiroir amour affectif, je ne parle pas de la sexualité pour le moment, et à un moment donné de sa journée, il va penser d'une manière toute particulière à sa chérie. Il va peut-être verser une petite larme. Et puis ensuite, il ferme le tiroir et fait autre chose. Et quand sa femme lui dit le soir, « Est-ce que tu as vraiment pensé à moi aujourd'hui ?» Il est fier de lui dire, « Mais oui, chérie, combien de temps tu as pensé à moi ?» Parce qu'elle, tout en travaillant, tout en faisant un tas de choses, elle pense à lui. Et elle peut être tentée de penser qu'elle l'aime mieux qu'il l'aime. Parce que elle l'aime d'une manière entière au lieu d'être compartimentée dans sa vie. Alors il y a un tas de répercussions à tout cela. L'homme, eh ben, quand il fait les valises, on va rire, hein, pour aller à Isenflot, tout d'abord il y a une grande discussion entre monsieur et madame. Parce qu'il faut mettre les choses au point. Monsieur dit à madame, chérie, je t'en supplie, pas trop de petits paquets. Et surtout, n'arrive pas à la dernière minute avec encore un petit paquet. La femme est totalement différente de l'homme. L'homme va vouloir caser, grosse valise, transporter le moins possible, même si c'est lourd. Ils s'organisent. On case les choses. Il ne faut surtout pas déranger l'ordre, parce que tout... Et ça donne lieu à quantité de frictions. Je me souviens, une fois, ma femme a voulu me faire comprendre la leçon. Et j'avais tellement envie des valises qu'un jour, avant de partir en vacances, elle m'a dit, mais écoute chérie, puisque tu tiens tellement à tes grosses valises, si nous prenions une malle, ça a été la seule fois où nous avons pris une malle, parce que c'est moi qui ai eu les problèmes avec la malle. Alors, nous devons dialoguer dans le couple. Je dois faire attention avec les valises et elle doit faire attention avec les petits paquets. Et on doit se rejoindre à quelque part. Et combien de couples se disputent au moment du départ en voyage simplement à cause de ça, sans réaliser que notre identité se reflète dans notre activité. On pourrait en dire tout autant, et je m'arrête, de la manière de conduire une voiture. Alors il y a ce sempiternel problème, qui de l'homme ou de la femme conduit le mieux? Les assurances vous diront bien entendu que c'est la femme, puisqu'elle provoque moins d'accidents. Les femmes sont moins chères aux assurances que les hommes, il faut le reconnaître. J'en peux rien. Si, je peux peut-être quelque chose si j'ai des accidents. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème ne devrait pas se poser en ces termes. C'est que nous conduisons différemment en fonction de notre identité. Tout simplement. Et c'est vrai que j'ai dû apprendre à fermer les yeux pendant que ma femme conduit. Et à ne pas dire « je conduis mieux que toi ». Non ! Tu conduis parce que tu as une identité différente de la mienne. Tu conduis d'une autre manière. Elle n'est pas plus fausse. Elle n'est pas plus fausse. Nous sommes là aussi complémentaires et l'un doit accepter l'autre. L'évaluation des obstacles sur une route n'est pas du tout la même chez l'homme et chez la femme. Le regard de l'homme, le calcul de l'homme n'est pas du tout le même chez l'homme et chez la femme. Ça ne veut pas dire que l'un des deux se trompe. Le résultat de son cheminement intellectuel est bon, mais le cheminement est différent. Nous allons nous arrêter là pour reprendre ce thème, parce que nous avons encore quelque chose à dire, mais je pense que nous comprenons que il y a tant de problèmes dans nos vies conjugales qui sont simplement liés au non-respect de l'identité de l'autre. Pourquoi ? Parce que nous voudrions tellement que notre vis-à-vis réagisse comme nous. Nous sommes toujours en train de projeter sur l'autre nos mécanismes de réaction. Et là, nous avons tort. Et dans l'amour conjugal, une grande place doit être donnée à ce processus d'identification. Je dois absolument m'identifier à l'autre, me mettre dans la peau de l'autre. À un moment donné, m'oublier. En disant, voilà, ça ce sont tes réflexes à toi. Mais maintenant, elle ou lui, est-ce qu'il a le même schéma de réaction? Est-ce qu'il a été bâti sur ce plan de la même manière? Et cela va nous aider à respecter l'autre, à faire des pas vers l'autre, vice-versa, et à, au contraire, nous réjouir dans notre complémentarité. Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Dieu a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon, très bon. Et c'est très bon à cause de cette merveilleuse complémentarité dans ce domaine de l'identité, surtout lorsqu'elle est à anobli, purifié, éventuellement remodelé, recomposé, rétabli, rectifié par notre relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi adorer notre Dieu et en même temps nous humilier dans le monde d'aujourd'hui, de nous éloigner tellement de la volonté de Dieu sur ce plan-là? Nous voulons prier. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir, en te connaissant mieux, mieux nous connaître. Pour pouvoir te prier avec intelligence. Pour pouvoir te demander de changer dans nos vies ce qui a été modifié, corrompu, affaibli, affadi par le péché. Et Seigneur, tu sais qu'il y a dans chacune de nos existences et de nos identités des flétrissures liées à l'éducation, à l'hérédité, à des habitudes centenaires d'une société, au milieu dans lequel nous évoluons, à notre état spirituel. Seigneur, nous reconnaissons les transformations qui doivent s'opérer en nous pour que nous retrouvions en nous l'image de Christ et qu'ainsi nous retrouvions aussi notre véritable identité. Seigneur, je te le demande pour moi-même, continue ce long travail et fais-le pour chacun d'entre nous. Et je te prie pour tel ou tel bien-aimé qui pourrait avoir de la peine à accepter ce que tu révèles. Tu sais combien nous sommes tentés de résister, parfois avec orgueil, à vouloir voir les réalités parce qu'elles nous humilient. Seigneur, donne la grâce que nous sachions reconnaître là où il le faut et aussi demander pardon là où il le faut, parce que peut-être nous avons maltraité autrui, notre conjoint, nos enfants, nos filles, si nous sommes pères, nos fils, si nous sommes épouses et mères. Donne-nous, Seigneur, de savoir aussi demander pardon pour les fautes liées à notre ignorance, à notre incompréhension ou à nos désobéissances, pour que nos relations soient belles, plus étroites, que notre communication soit plus fructueuse, que tu sois glorifié par nos vies conjugales devenant plus harmonieuses, plus dignes de toi. Merci pour ta grâce à l'œuvre et ton esprit à l'œuvre dans chacune de nos vies. Prolonge ce que nous avons partagé dans nos temps de silence devant toi, l'écart, dans nos conversations. Et garde-nous de l'action ennemie qui vient picorer les graines déposées dans notre cœur si nous n'y prenons garde. Seigneur, que la semence déposée porte du fruit dans un bon terrain pour la gloire de Christ. Amen.